Dans l'actualité des idées aujourd'hui, attention au risque de déraison. Sur le marché très concurrentiel de l'attention, comment sauver notre temps de cerveau disponible? Qui cherche d'ailleurs à se l'accaparer et par quels moyens et à quelle fin? Invité le sociologue Gérald Bronner, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine, auteur précédemment de La démocratie des crédules. Il signe aux presses universitaires de France Apocalypse cognitive comme une mise en garde. Lui, qui se dit pourtant partisan du progrès, rationaliste, adepte des neurosciences, ni technophile ni technophobe, s'inquiète aujourd'hui d'une tendance de fond qui serait à l'œuvre, une dérégulation massive où croyances et pensées méthodiques entrent en concurrence. Bonjour à vous Gérald Bronner.
Bonjour.
On avait avec nous dans la première partie de l'émission le comédien Michel Villermoz qui sera à l'affiche d'une série sur Canal+, intitulée OVNI, et on discutait justement aujourd'hui de notre nécessité à la fois à croire et de ne pas croire, à ce rapport entre à la fois les croyances et la vérité, cette nécessité peut-être, pour faire vivre aussi notre imagination, d'accepter une part de crédulité dans nos vies. Quel est le bon équilibre à avoir à vos yeux, Gérald Bronner?
Je pense d'abord qu'il faut être conscient que finalement ce qu'on appelle la connaissance, le rapport un peu direct à la vérité, c'est-à-dire un rapport argumenté, en pleine conscience en quelque sorte, n'est qu'un moment rare de la vie mentale. Moi-même qui vous parle, qui travaille sur les croyances depuis si longtemps, je sais que je suis crédule à propos de beaucoup de sujets. Simplement, j'ignore que c'est de la crédulité. La crédulité a tendance à se faire passer dans nos esprits pour de la connaissance. Donc la grande part, je crois, de notre rapport au monde est fondée sur de la crédulité. Par exemple, je crois à la théorie du Big Bang, mais je n'ai pas les compétences intellectuelles pour la comprendre de l'intérieur. Donc en fait, c'est une forme de croyance par délégation. Une croyance raisonnable, certes, mais une croyance malgré tout.
Et la crédulité, elle est souvent aussi au cœur de la relation, du pacte entre l'auteur et le lecteur. L'auteur ou le spectateur, hein, cette suspension à un moment de notre raison, accepter aussi de sauver notre imaginaire et notre imagination en acceptant d'être par moments décrédule aussi.
Absolument, c'est même la condition nécessaire de tout progrès de la connaissance, paradoxalement. Vous savez qu'à mesure que la connaissance progresse, elle produit des arborescences complexes et qu'un seul cerveau humain ne peut pas embrasser l'intégralité de la connaissance humaine, surtout aujourd'hui. Peut-être qu'au XVIIe siècle, il était possible pour les beaux esprits de savoir tout de la philosophie, des mathématiques ou de la physique. Mais aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas savoir tout de la sociologie, loin s'en faut, et aucun physicien ne sait tout de la physique. Ce qui veut dire que, par un mécanisme direct, les progrès de la connaissance impliquent une augmentation, je dirais, du taux de croyance par délégation, et donc de la confiance. Et c'est bien la question de la confiance qui est au cœur de nos démocraties aujourd'hui, et de la crise de la confiance.
Est-ce qu'on vit dans une époque formidable, à vos yeux ?
C'est une question terrible, parce que moi, vous savez, je suis d'une nature optimiste. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose d'irrationnel qui est en moi. Ça ne se justifie pas particulièrement. Et en même temps, je suis très inquiet. Vous avez dit que mon livre était tourmenté, en quelque sorte. Même si j'essaye d'apporter des formes d'espoir, en fait, intellectuelles, analytiques, face à cette situation. Mais je pense que nous vivons, en tout cas, une période absolument passionnante. Mon livre s'inaugure, d'ailleurs, sur la constatation mélancolique à la suite de la chute du mur de Berlin, en entendant un certain nombre de commentateurs, on se souvient notamment de ceux qui prophétisaient la fin de l'histoire, et bien que j'allais vivre, moi, par une sorte de malchance, dans le creux de l'histoire, où il ne se passerait plus rien. Évidemment, c'est toujours faux. Tous ceux qui annoncent la fin de l'histoire se trompent immanquablement. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'histoire galope sous nos yeux. Elle a besoin, en effet, de concepts pour la pensée. C'est un exercice particulièrement difficile. Je crois que c'est donc une période à la fois réjouissante intellectuellement et inquiétante du point de vue du citoyen que je suis.
Et c'est une période déceptive aussi pour ceux qui croyaient particulièrement à la force du progrès, au fait que le progrès allait nous permettre de passer une marche, une étape civilisationnelle.
Hein. Absolument, ça c'est un des grands mythes qui a fondé notamment au XIXe siècle, on le voit bien, j'avais fait une étude jadis où j'interrogeais les individus par des entretiens, vous voyez, qualitatifs, sur leur représentation de l'an 2100. Et j'avais constaté qu'il y avait un écart véritablement gigantesque entre l'imaginaire du futur d'aujourd'hui et ce qu'on imaginait pour l'an 2000, en 1900. Vous voyez, avec le même rapport temporel, nos ascendants en 1900 étaient extrêmement optimistes. Ils étaient persuadés que demain serait préférable à aujourd'hui. Finalement, c'est ça le progrès, l'idée de progrès. C'est l'idée selon laquelle demain sera préférable à aujourd'hui. Et beaucoup d'enquêtes montrent, des sondages tout simplement, que beaucoup de nos concitoyens, au contraire, considèrent que demain sera plus terrible pour leurs enfants qu'aujourd'hui, voire même croire en une catastrophe, un effondrement total de notre civilisation. Donc oui, l'heure n'est pas à l'optimisme, c'est évident.
Et vous citez beaucoup dans ce livre votre père spirituel, votre référent Boudon, qui faisait partie de ceux qui croyaient qu'un jour, bientôt au prochain, l'homme ne serait plus l'esclave du temps, du travail aussi. Quel est, à vos yeux, ce que vous nommez le plus précieux de tous les trésors, Gérald Brunner ?
Alors c'est vrai que mon maître Raymond Boudon était encore plus optimiste que moi, puisqu'il considérait que, précisément, sur le marché des idées, un libre marché ferait advenir les idées les meilleures, c'est-à-dire les plus rationnelles, les plus proches de la représentation scientifique du monde. Je dois dire que, de ce point de vue, j'avais déjà du temps de son vivant un désaccord, il le savait, on avait échangé autour de la démocratie des crédules qu'il avait lu et qu'il avait quand même approuvé. Mais en effet, c'est un point de désaccord que j'ai avec lui. Je suis beaucoup plus pessimiste car ce que je crois qui advient sur ce marché, c'est effectivement des produits cognitifs, si vous me permettez de filer la métaphore, des produits cognitifs qui sont les meilleurs, mais pas du point de vue du rapport à la rationalité, à la vérité, mais du point de vue de l'efficacité intellectuelle qu'ils produisent. Alors, pour répondre à votre question, la situation dans laquelle nous sommes est passionnante, je l'ai dit, elle est inédite du point de vue historique, elle est inédite du point de vue historique, parce que nous n'avons jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, autant, en quelque sorte, de disponibilité mentale. Alors, comment on peut l'approcher ? Évidemment, c'est très approximatif. Ce que je propose dans mon livre, c'est simplement de constater l'évolution, par exemple, du droit du travail, du nombre d'heures que nous consacrons au travail, en utilisant aussi les enquêtes de l'INSEE, qu'on appelle les enquêtes emploi du temps, qui montrent le temps domestique consacré au jour le jour, dans les transports, le temps biologique, le temps, par exemple, dans la salle de bain, etc. Et à partir de là, vous pouvez dégager, en quelque sorte, approximativement, un temps de disponibilité mentale, c'est-à-dire ce temps dans lequel vous pouvez regarder des fictions ou penser le monde. Enfin bref, ce qui me paraît être en effet le trésor le plus précieux de l'humanité, c'est plus précieux que de l'or ou du pétrole ou du diamant. Et il y a dans ce temps de cerveau disponible, en quelque sorte, toute l'histoire de l'humanité qui est possible. Le pire comme le meilleur.
Voilà, ce temps de liberté mentale qui est à vos yeux un véritable trésor. Qu'en avons-nous fait ? Qu'en ont-ils fait ? Vous revenez sur une date qui vous semble essentielle aujourd'hui pour comprendre ce qui a pu être un basculement, un tournant. C'est le 11 mai 1997. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ?
Le 11 mai 1997, c'est effectivement une date intéressante pour tous les joueurs d'échecs en particulier. Alors il se trouve que j'aime beaucoup le jeu d'échecs, mais je ne suis pas très bon malheureusement. Je crois qu'il faut avoir pour le coup un cerveau disposé pour être un grand maître aux échecs. Mais en tout cas, l'histoire de ce jeu est très intéressante parce qu'elle met en scène la compétition qu'il y a pu avoir entre notre cerveau et les intelligences artificielles. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on le sait aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent battre le meilleur d'entre nous, à l'époque Kasparov, c'est un programme qui bat Kasparov, alors que Kasparov ne croyait pas la chose possible. C'est ça qui est très intéressant, c'est que nous n'avons pas vu l'accélération avec laquelle l'intelligence artificielle a progressé, notamment dans la capacité à stocker de la mémoire, à opérer des opérations computationnelles à grande vitesse. Et elle est capable de nous surpasser dans bien des domaines, et en particulier dans les domaines algorithmiques, en quelque sorte. Et ça, c'est une étape intéressante, importante, parce que, évidemment, cette libération du temps de cerveau dont j'ai parlé, elle va probablement être encore accélérée par le fait qu'un certain nombre d'actes, de gestes, vont être en quelque sorte exportés, externalisés. C'est déjà le cas avec les machines vapeur. Beaucoup de nos gestes physiques ont été externalisés dans les machines et ça a augmenté la productivité du travail et ça réduit progressivement, grâce aussi au droit du travail, le temps de travail. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce sont nos algorithmes cognitifs qui peuvent être exportés. Des professions comme celle de traducteur, les professions de juriste, toutes sortes de professions de diagnostic, bref, toute activité cognitive qui peut être algorithmisée le sera probablement et le sera plus efficacement par les machines. Certains économistes, là je ne suis pas dans mon domaine, je ne fais que les citer, prophétisent qu'en 2025, plus de 50% du travail effectué sur la Terre le sera par des intelligences artificielles. C'est très inquiétant et en même temps très stimulant. Vous voyez, pour revenir à votre première question, très inquiétant parce que bien sûr des emplois, un grand nombre, vont disparaître et ça va créer évidemment des troubles sociaux qu'on peut comprendre. Et en même temps, c'est une opportunité parce qu'il est évident que ça va éventuellement nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Car notre cerveau vaut peut-être mieux que les tâches algorithmiques qui nous enferment.
En fait, tout dépend ce qu'on en fait. Absolument. Et vous ne dites pas autre chose quand vous écrivez. Les intelligences artificielles sont des prothèses pour l'humanité, des prothèses essentielles compte tenu des handicaps physiques et cognitifs qui caractérisent notre espèce, mais pas beaucoup plus, c'est sûr. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Écoutez, là aussi, je ne fais... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de croire par délégation. Je ne fais que croire les spécialistes de l'intelligence artificielle, et j'en cite un certain nombre, qui disent qu'en effet, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et de croire, par exemple, au mythe de la singularité où tout à coup, comme on le voit dans les films de science-fiction, ces intelligences artificielles réclameraient leur autonomie et nous feraient la guerre. Ça, je crois que c'est une projection des craintes humaines, mais c'est très intéressant parce que ça interroge aussi l'ontologie qui est la nôtre, c'est-à-dire la façon dont nous concevons notre propre cerveau. Car après tout, c'est vrai, si notre cerveau n'est rien d'autre qu'un mécanisme, qu'est-ce qui empêcherait des mécanismes de déclarer en quelque sorte leur indépendance à un moment donné? Je ne crois pas du tout à ce mythe, je le trouve intéressant pour le sociologue des croyances que je suis, mais en effet, je suis très réservé.
Alors, vous ne croyez pas en ce mythe, mais en revanche, vous constatez une chose, c'est que les premières années du XXIe siècle ont instauré ce que vous appelez une dérégulation massive du marché des idées, que l'autorégulation qui était attendue par certains n'a pas succédé à cette dérégulation des marchés cognitifs et de l'information. L'époque, en gros, elle aurait pu être formidable, mais elle est en train de prendre une mauvaise tournure. Pourquoi ? On en revient à cette idée de notre disponibilité mentale qui a augmenté, mais on ne s'en sert pas forcément de la bonne manière. En tout cas, on n'a pas forcément plus de temps pour s'instruire, se divertir, s'informer. Ce temps de cerveau libéré, qu'est-ce qu'on en a fait ?
Bien, je crois que justement, c'est un peu ce que je raconte, c'est que ce trésor le plus précieux qu'on puisse concevoir est enfin en train d'être cambriolé, en quelque sorte, par ce qu'il se produit sur les écrans. On sait, toutes les études le montrent au cours du XXe siècle, d'abord par la télévision et plus encore aujourd'hui par nos smartphones, nos ordinateurs. Ce sont des objets qui sont en quelque sorte les armes du crime idéal pour capturer notre attention. Ce ne sont pas les objets qui sont coupables, ce ne sont pas les écrans qui sont coupables en soi, ce sont simplement des fenêtres sur ce qu'il se produit, sur ce que j'appelle le marché cognitif, le marché des idées. Et ce qu'il se produit tout simplement, et c'est pour ça que je pense que c'est historique, voire même civilisationnel, c'est un alignement inédit entre toutes les offres possibles et toutes les demandes imaginables. Le marché des idées nous offre en quelque sorte, que l'on veuille voir ceci ou cela, qu'on ait un goût pour la conflictualité par exemple, ou pour la pornographie, c'est un des exemples que je donne dans les livres, parce que les vidéos les plus regardées dans le monde, de très loin et dans tous les pays, ce sont les vidéos pornographiques. Il n'y a rien de mal à cela, que les choses soient claires dans mon esprit. Mais cet alignement entre l'offre et la demande, il produit en quelque sorte, par exemple dans le domaine des idées, des phénomènes de démagogie cognitive, c'est-à-dire que l'offre d'information, elle tend à s'indexer de plus en plus sur la demande, mais la demande telle qu'elle est révélée par nos obsessions mentales. Donc ce dévoilement que je désigne dans mon titre « Apocalypse cognitive », car vous avez compris que je n'annonce pas la fin des temps, mais que je parle de l'étymologie du terme, c'est-à-dire la notion de révélation, eh bien cette révélation, c'est que les traces que nous laissons dans le monde numérique, elles dressent en quelque sorte un visage caricatural certes, mais comme dans toute caricature, il y a un peu de vérité, un visage, une ontologie, une anthropologie, je dirais, plutôt de l'humanité, une anthropologie réaliste. C'est-à-dire nos compulsions, nos obsessions mentales et la facilité avec laquelle nous pouvons éventuellement nous abîmer, par exemple dans la crédulité qui est une seule des facettes de ce polyèdre complexe qu'est l'apocalypse cognitive. Je prends l'actualité récente, par exemple, parce que certains pensaient, au moment où j'ai fait paraître la démocratie des crédules, certaines voix disaient que j'exagérais, que tout cela était une forme d'épouvantail, mais que l'on constate tout simplement que ce qui se passe sur les flux numériques peuvent parfaitement s'incarner dans la vie sociale. Songez à ce qui s'est produit il y a quelques jours au Capitole, aux États-Unis, où on a vu effectivement des masses d'individus d'extrême droite et animés aussi par des sentiments conspirationnistes. C'est le groupe QAnon notamment, l'idée selon laquelle il y aurait un état profond derrière lequel il y aurait des réseaux pédophiles, satanistes, etc. Et puis ça aboutit à des événements politiques sidérants, ou plus proches de nous, et peut-être encore plus inquiétants puisque nous sommes dans une période épidémique, cette augmentation invraisemblable de la méfiance envers les vaccins, n'est-ce pas ? Et là, tout cela, évidemment, eh bien, ça a des conséquences très concrètes, très, très sociales.
Alors, le bocal, c'est les écrans, les poissons rouges, c'est nous. On va écouter à ce sujet le président d'Arte, Bruno Patineau, auteur de La civilisation du poisson rouge, paru chez Grasset. C'est le livre, hein, paru l'an dernier, qui nous a alerté aussi sur cette captation à l'œuvre sur le marché de l'attention.
Le temps est devenu un marché ultra compétitif. Et donc, finalement, le marché qui s'est développé va au-delà du temps qui a été mis à disposition. Je parle d'exemples très simples, vous savez, l'incapacité de laisser son portable de côté, la fameuse nomophobie, le désir de le regarder même quand vous êtes en couple, entre amis ou en famille, le fnubbing, enfin celui qui, comme moi qui se réveille la nuit pour regarder son portable. Toutes ces pathologies, elles sont créées par des interfaces qui utilisent des données de neurosciences et qui les utilisent de façon ouverte. Hein. C'est pas du tout une thèse complotiste de dire, attention, ils le disent, ils le publient et ils l'expliquent parfaitement. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous mettez à la queue leu-leu, si j'ose dire, tout le temps passé à faire plusieurs choses, vous arrivez à des journées qui ne font pas 24 heures, mais 31 heures, qui était le chiffre moyen calculé aux États-Unis. Ce qui veut dire que pendant 7 heures par jour, on fait plusieurs choses à la fois. Et faisant plusieurs choses à la fois, en fait, ce sont plusieurs interfaces qui rentrent en compétition pour vous capter du temps, alors même que vous êtes en train de faire autre chose. Et donc ça, c'est très fatigant.
Voilà, d'une société du temps libéré à laquelle aspirait Raymond Boudon ou encore André Gorz, qu'on entendra tout à l'heure, à une civilisation du poisson rouge, cette bascule, on l'a fait. Notre attention est spoliée, elle est pillée, elle ne cesse d'être captée. Nous avons changé de civilisation, à vos yeux, Gérald Bronner, aussi ?
Pas encore, mais en tout cas, nous sommes à un carrefour civilisationnel et ce que disait Bruno Patineau est tout à fait exact. Hein. Effectivement, il y a des dark patterns, c'est-à-dire cette captation. Notre attention, elle n'arrive pas par hasard. Je mettrais juste une petite différence sur le terme pathologie qu'il a utilisé. Je n'utiliserai pas ce terme pathologie. Je pense que ce que cette offre vient chercher en nous, dans nos cerveaux, ce sont des dispositions qui sont ancrées dans notre nature depuis bien longtemps. Par exemple, le fait d'être absolument sensible au like, au repartage, enfin tout ce qui fait une forme finalement d'addiction aux réseaux sociaux, qui a été bien décrit et très documenté, eh bien, c'est aussi le fait que nous ne pouvons nous penser nous-mêmes que par comparaison aux autres. Et que notre bonheur dépend aussi un petit peu, c'est cynique de le dire, mais malheureusement très documenté, un peu du malheur des autres. Vous savez, par exemple, on s'est aperçu au moment de la réunification de l'Allemagne que les Allemands de l'Est s'étaient considérablement enrichis grâce à cette réunification, mais qu'ils étaient plus malheureux qu'avant. La raison en est qu'au lieu de se comparer aux autres pays de l'Est, ils se mettaient à se comparer aux pays de l'Ouest. Et à ce moment-là, effectivement, la comparaison était plus douloureuse. Ou cette autre étude que je cite dans mon livre, qui est magnifique, sur les vainqueurs olympiques. Et on s'aperçoit que ceux qui ont une médaille d'argent sont plus malheureux que ceux qui ont une médaille de bronze. Tout simplement parce que ceux qui ont une médaille de bronze, eh bien, ont le sentiment, ils regardent les autres, ceux qui n'ont pas eu de médaille, ils ont le sentiment d'avoir de la chance de monter sur le podium, tandis que celui qui a la médaille d'argent regarde celui ou celle qui a la médaille d'or, n'est-ce pas ? Eh bien, cette pensée de soi-même par comparaison, ce n'est pas Internet qui l'a inventé, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est une disposition des singes sociaux que nous sommes, profondément enfouis en nous. Seulement voilà, les réseaux sociaux, par la transparence qu'ils organisent sur la vie de chacun d'entre nous, eh bien, mettent en scène cette comparaison douloureuse. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque l'on va sur Facebook, une étude allemande le montre, ou même sur Instagram, eh bien, on en ressort souvent plus malheureux qu'avant d'y rentrer. Tout simplement parce que c'est une mise en scène constante de comparaison avec autrui qui peut nous blesser.
Alors, on est plongé aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dans notre rapport aux écrans, dans un océan, dites-vous, de données, d'informations. Qu'est-ce qu'elle provoque, cette surinformation ? On pourrait penser que c'est un homme émancipé, celui qui a accès à autant d'informations et qui peut en profiter.
Il est évident que le raisonnement contraire serait absurde, c'est-à-dire de dire qu'il faudrait, pour s'émanciper, d'avoir aucune information. Non, l'information est absolument nécessaire, c'est une nourriture intellectuelle, ça c'est évident. Seulement, cette masse d'informations colossale, là aussi qui est très documentée, on a produit dans les deux dernières années 90% de l'information disponible sur la Terre. Donc vous voyez, une progression là aussi géométrique. Eh bien, ça fait que, tout simplement, ce que je vous disais, il y a une offre beaucoup plus grande qui va faire qu'on va pouvoir aller eh bien, faire de la cueillette dans cette offre, et on va chercher les informations qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de croire ou d'entendre, et qui vont donc nous enfermer dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. On va avoir la possibilité aussi de voir, de regarder avec un certain voyeurisme, par exemple, toute forme d'expression de la conflictualité. Là encore, le goût que nous avons pour la conflictualité ne date pas du tout d'Internet, mais Internet nous permet, par les prothèses artificielles que sont les téléphones qui filment sans cesse, de visualiser sans arrêt des agressions éventuellement, une gifle qui serait donnée à tel Premier ministre, un combat entre deux rappeurs, n'est-ce pas, dans un aéroport. Eh bien, on s'aperçoit, et je le montre dans le livre, que ce type de fait de conflictualité, ce sont aussi les événements les plus recherchés sur Google à propos de ces personnalités que je viens d'évoquer. Et donc, en fait, cet alignement, cette fluidification entre l'offre et de la demande, encore une fois, il révèle la part obscure de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une pathologie. Nous sommes cela aussi, mais nous ne sommes pas que cela. C'est un peu, si vous voulez, le caractère d'espoir que j'essaye de décrire aussi dans le livre, car tout n'est pas sombre. Il y a dans notre cerveau des ressources inouïes. Et c'est en prenant compte de la situation qu'on va pouvoir éventuellement reconstruire un récit politique différent. Parce que c'est une partie qui m'intéresse beaucoup, ce sont les récits, les narrations qui nous empêchent de voir cette apocalypse cognitive.
Dans notre cerveau et sur la toile, Internet aussi offre ça. Wikipédia a 20 ans, Gérald Bronner, cette bibliothèque des savoirs gratuite, cette mise en partage d'un savoir collectif. Ça, c'est une réussite pour vous ?
Absolument, c'est une réussite. Il y a bien des critiques à faire sur Wikipédia, mais je pense qu'il n'y a pas photo, parce que Wikipédia a été testée en compétition, en quelque sorte, avec d'autres encyclopédies, et elle a largement relevé le défi. Donc, c'est une formidable réussite du travail collaboratif, ce qui veut dire que c'est possible, mais il y en a d'autres. Par exemple, songez au jeu Fold It, qui est c'était un jeu en ligne où les gens manipulaient des morceaux de molécules, etc. Enfin, exploraient l'espace polypeptidique, n'est-ce pas, des protéines. Et ça a abouti à des publications scientifiques, dont une dans la revue Nature, par exemple, qui est particulièrement sélective. Donc, bien entendu, il ne faut absolument pas désespérer de la collaboration collective. Mais pour aboutir à des effets qui ne soient pas contre-productifs, il faut se livrer à une analyse non idéologique, avoir une approche analytique des choses, dépassionnée en quelque sorte, sans enjeu politique a priori, même si les conséquences politiques de ce que je suis en train de dire, elles sont immenses.
Les trésors de notre attention et de notre créativité sont dévorés par cette nouvelle industrie du divertissement taillée sur mesure pour chacun d'entre nous, dites-vous Gérald Bronner. Les informations, ce monde en est saturé d'infos. Aujourd'hui, on ne sait pas se limiter, on consomme de l'info en boucle. Ça, c'est ce que dit le journaliste scientifique Sébastien Boller, qui va dans votre sens et qui a signé l'an passé chez Robert Laffont un ouvrage passionnant, Bug humain, on le recevait à cette occasion. Voilà ce qu'il disait à propos de notre striatome et de notre cortex.
Cette partie de notre cerveau, ce striatum, est complètement aveugle au futur. C'est-à-dire que on voit que si je vous donne, par exemple, une somme d'argent de 10 euros, je vous dis soit je vous donne les 10 euros maintenant, soit 15 euros dans un an, à 90%, vous allez prendre les 10 euros maintenant. C'est-à-dire que c'est votre striatum qui va voir les choses qui sont sous votre nez maintenant, mais qui n'arrive pas à prendre en compte ce qui va être dans le futur plus éloigné. Votre cortex le fait. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous vous dites oui, 15 euros sera plus intéressant dans un an, même compte tenu de l'inflation, ok. Mais votre striatum ne le peut pas. Et ça, c'est quelque chose qui a d'abord été étudié chez les enfants à travers une célèbre expérience, l'expérience du marshmallow. Vous pouvez voir sur Internet, qui est très drôle. Vous donnez le choix à un enfant d'avoir soit une sucrerie tout de suite, soit deux s'il attend 5 minutes, et puis il résiste pas. Il mange la sucrerie tout de suite. Et on fait les mêmes expériences avec les adultes, avec de l'argent. Et il ne résiste pas non plus. Et alors le problème, c'est qu'effectivement, on se dit dans 30 ans, on va laisser un monde catastrophique à nos enfants. Mais il faut toujours savoir que c'est seulement notre cortex qui le sait de façon abstraite, mais que émotionnellement et au niveau de notre motivation, ça ne rentre pas. Et toute la question, ça va de savoir comment le faire rentrer.
Voilà, ça c'est pour le comment ça se passe, comment ça marche, et vous y revenez aussi, Gérald Bronner, dans votre ouvrage Apocalypse cognitive. La question maintenant est de savoir quelles conséquences ça a et surtout quels profits ils en tirent, le « il » étant ces industries aussi du divertissement que vous évoquez, qui seraient taillées sur mesure pour tenter de capter, piller nos cerveaux. Quelle est la conséquence de cela? Quelle nouvelle servitude ça va créer?
Par exemple, puisque l'expérience de Walter Mitchell a été évoquée, l'expérience du marshmallow, qui est en effet bien mondialement célèbre, mais un problème de tempérance, le problème de différer parfois, parce qu'il faut bien le faire, les plaisirs immédiats pour des poursuites d'objectifs à plus long terme. Par exemple, lorsqu'il s'agit de mener la lutte contre le dérèglement climatique, il faut bien renoncer à un certain nombre de plaisirs immédiats pour sauver le long terme. C'est un des exemples possibles. Ils sont extrêmement nombreux. On a l'impression, en effet, que la vie politique, peu à peu, est en train de dévisser, la vie publique est en train de dévisser vers la satisfaction de demandes immédiates contre l'expression de la rationalité dans certains cas, c'est-à-dire une vue avec une profondeur temporelle un peu plus importante. Puis il y a une autre conséquence assez importante aussi.
C'est le fameux bug humain, comme dit Sébastien Boller. C'est notre difficulté aussi à nous projeter sur le long terme. Nous qui sommes pris, comme vous l'écrivez, dans ce brouhaha permanent d'informations, notre cerveau n'arrive plus à distinguer les échelles.
Puis il y a une dimension aussi sociologique importante, c'est que nous ne sommes pas égaux face à cette capacité de tempérance. On sait que les milieux les plus modestes sont aussi ceux qui consultent le plus les écrans. Hein, rappelez-vous qu'on craignait à un moment donné une fracture numérique, c'est-à-dire qu'on craignait que les classes les plus modestes n'aient pas accès aux écrans et aux ordinateurs. Donc là, on n'en est pas tout à fait à cette situation. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Ce sont des catégories sociales qui apparemment, statistiquement, s'abîment plus dans les écrans. Et on sait aussi que dans l'expérience de Walter Mitchell, ce sont aussi les catégories qui ont le plus de mal, les petits-enfants, à différer ses plaisirs immédiats pour plein de raisons sociales, parce que je pense que quand il est difficile de finir son mois, eh bien, il y a une stratégie qui peut être compréhensible de ne pas trop différer les plaisirs, si vous voulez. En tout cas, c'est relativement documenté et il y a donc une dimension sociale et politique dans ces questions, parce que tout temps de cerveau qui disparaît, y compris dans ces catégories, c'est une perte de chance pour nous tous. C'est ça qu'il faut se dire.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
13h22 sur France Culture. Pour quelques minutes encore, Gérald Bronner, sociologue, est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage « Apocalypse cognitive » aux presses universitaires de France. Apocalypse quoi ? C'est quoi cette apocalypse cognitive porte donc le titre de ce nouvel essai que vous signez, Gérald Bronner. Sur la couverture du livre, il y a une peinture qui pourrait servir, dites-vous, d'allégorie à cette apocalypse d'un nouveau genre, la tête coupée de Méduse, la tête effroyable d'Edward Burne Jones. En quoi cette figure de Méduse rendrait visible en fait ce que nous sommes en train de vivre et ce que vous nommez apocalypse cognitive?
Donc l'apocalypse cognitive, c'est la révélation, je disais, des traits invariants et obsessionnels de notre espèce pour certains thèmes, la peur, la sexualité, la conflictualité, la comparaison avec les autres, l'incomplétude cognitive. Enfin, je liste, je ne vais pas être exhaustif là, je le liste dans mon livre avec beaucoup d'exemples et beaucoup de références expérimentales. Et donc cette révélation, elle trace les linéaments d'un visage effroyable, un peu monstrueux et qu'on n'a pas envie de regarder. Et donc c'est pour ça que la figure de la gorgone Méduse, qui peut nous pétrifier si on la regarde dans les yeux, m'a paru assez bonne, parce que précisément je pense que pour sortir de ce carrefour civilisationnel par le haut, et non pas en s'abandonnant à une forme d'affaissement civilisationnel, il faudra bien accepter de regarder cette réalité en face. Elle n'est pas absolument détestable, mais elle n'est pas non plus la plus désirable des réalités. Encore une fois, nous ne sommes pas que cela. Ce que je constate, et qui fait partie de la dernière partie de mon livre, c'est que certains grands récits dans lesquels puisent des idéologies contemporaines, des matrices narratives, pourrait-on dire, nous détournent de la possibilité de regarder ce visage de la gorgone Méduse. J'en liste en particulier deux. D'une part, les néo-populismes, dont par exemple Donald Trump est une des figures contemporaines, mais il y en a beaucoup d'autres, qui cherchent à donner une légitimité politique à ces obsessions, si vous voulez, à la démagogie cognitive, par exemple. Le fait, vous voyez, quand Donald Trump dit « Oh, bah, il a fait froid cette semaine, donc le réchauffement climatique, c'est bidon », ou quand il dit « L'hydroxychloroquine, je la sens bien, cette molécule, je suis un type intelligent ». Ce genre de proposition, si vous voulez, qui paraît parfaitement intuitive, elles vont aller plus vite, 6 fois plus vite, les fausses informations que les vraies informations sur Twitter, par exemple. Et on sait que sur une chaîne comme YouTube, je viens de parler de réchauffement climatique, vous avez 54% des vidéos qui parlent de climat qui sont climato-sceptiques. Ce qui, évidemment, ne reporte pas du tout la réalité de la recherche scientifique sur cette question. Alors, cette face grimaçante, elle peut être légitimée politiquement en disant, dans le fond, c'est ça que veulent les gens, c'est ça que pensent les gens, ils ont raison, c'est la vox populi, en quelque sorte. Donc, c'est le pur populisme, en l'occurrence. Puis, une autre matrice idéologique dit que, dans le fond, nous ne sommes pas comme ça. c'est, on pourrait appeler un peu néo-rousseauiste, si vous voulez. C'est-à-dire que ce serait l'homme qui serait dénaturé par son environnement. Alors la religion a beaucoup joué de cela, n'est-ce pas ? Par notre compulsion pour la sexualité était rabattue sur des tentations diaboliques ou que sais-je, des choses qui seraient extérieures à notre nature. Aujourd'hui, on a d'autres types de récits, le capitalisme, le marché ou ce que vous voulez, l'environnement en général, expliquerait ces compulsions. Je crois que ce sont deux erreurs d'interprétation, qu'on a maintenant des données assez importantes qui vont plutôt dans le sens de ce que j'essaie de proposer, c'est-à-dire un autre récit entre les deux, qui est un récit rationnel qui est écartelé un peu entre les deux, mais qui essaye de proposer cette apocalypse cognitive avec l'idée, c'est une image un peu initiatique, vous me le pardonnerez, que pour aller au paradis, pour sortir de cette situation, il faut d'abord passer par les enfers. C'est ce que nous racontent à peu près toutes les mythologies.
En fait, vous dites comme Raymond Aron, que vous citez d'ailleurs en ouverture, en exergue de ce livre, et vous vous rappelez aussi que ce monstre, hein, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Peut-être la suprême vertu en notre siècle serait-elle de regarder en face l'inhumanité sans perdre la foi dans les hommes. C'est ça ? C'est
oui,
cette inhumanité qu'il faut regarder, à défaut de se laisser prendre par le regard de la méduse.
C'est exactement pour cette raison que j'ai mis cette phrase en exergue, vous l'avez bien compris.
Terminer avec vous sur ces mots qui m'ont fait sourire du critique du Figaro. Au fond, ce livre raconte l'histoire d'un libéral qui se découvre libéral. Car tout libéral sait qu'on ne peut pas se passer de l'État ni des régulateurs, ni trop, ni trop peu, sans quoi, en effet, on risque l'apocalypse. C'est vous ? Il vous décrit bien ?
Je ne découvre pas le fait que le libéralisme n'a jamais exhorté un marché sans aucune régulation. Bien entendu, il a tout à fait raison.
Mais est-ce que vous vous êtes découvert comme libéral, vous, Gérald Brunner ?
Ah, je ne me suis pas découvert comme libéral. Non, je suis libéral.
Vous l'étiez et vous le resterez ?
Bah, je le resterai déjà, je ne sais pas. Je suis disposé au changement intellectuel si on arrive à m'en convaincre.
Gérald Brunner, Apocalypse cognitive, votre nouvel essai vient de paraître chez PUF. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, avec qui je suis bien heureuse de recommencer cette semaine. À Jean Bulot pour la programmation de cette Grande Table des idées, avec Laura Gutèche-Pérez à la préparation, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture, avec l'aide toujours précieuse de Madeleine Martineux et d'Anouk Delfineau. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau, avec Jean Frédérics à la technique. Un grand merci à eux. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle Grande Table. D'ici là, très belle après-midi à tous sur France Culture.